franceinter.fr.
Bonjour. Elle a été hier l'une des vedettes des célébrations de la fête nationale aux États-Unis. La frégate française l'Hermione est ancrée pour quelques heures encore dans le port de New York, à quelques encablures de la Statue de la Liberté. Hier, elle a participé à une grande parade navale entre la statue et le pont Verrazzano. Le bateau avait quitté les côtes charentaises le 18 avril. Il aura passé un mois en mer avant d'entreprendre sur la côte est des États-Unis une véritable tournée de stars. Et ça n'est pas surprenant puisque l'Hermione est intimement liée à l'histoire américaine. C'est à bord de l'Hermione qu'en 1779, un certain Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette, quitte la France pour aller soutenir au nom du roi les insurgés américains qui luttent contre les troupes anglaises. 236 ans plus tard, c'est donc une réplique exacte du navire qui a traversé l'Atlantique. Une réplique qui a vu le jour à Rochefort, le berceau de la frégate originale. C'était à l'époque l'un des meilleurs vaisseaux de guerre, réputé notamment pour sa rapidité. À bord, sous le commandement de l'ancien patron du Belém, plus de 70 volontaires venus de tous les horizons ont participé à la force du poignet à cette traversée historique. Ce printemps, Interception a pu partager la vie du bord pendant les ultimes séances d'entraînement avant le grand saut au-dessus de l'Atlantique. L'Hermione, un fameux trois-mâts, part pour les Amériques. C'est un reportage, vous allez l'entendre, parfois très acrobatique, signé Antoine Gignot et Jean-Michel Coquet.
Interception, le magazine de la rédaction.
On change le vent, on brasse la misaine. Largue ton faux bras, Simon. Largue la mûre. On reprend les coudes en même temps. Allez, brasse ça. On brasse.
Oh, hisse. Oh, hisse. Oh, hisse.
Tiens bon, tourne comme ça.
Tiens bon, les coudes.
Tiens bon, les coudes de misaine.
Oh, hisse. Oh, hisse.
On a réveillé tout le monde.
Ouais.
Sur le pont.
Ouais.
Hisse. On a réveillé tout le monde plus tôt que prévu. Et là, on a besoin de tout le monde, on le sait, parce qu'on fait un virement vent devant.
Grosse manœuvre.
Ouais, c'est une manœuvre compliquée, en fait.
Ça commence à être raide, Steph.
Ils ont tourné au bras. Steph, ils ont tourné au bras.
Allez, on brasse.
Ok, on ramène.
Là, faut pas perdre la vitesse, c'est le moment où faut
Allez,
pas perdre la vitesse. Donc en même temps, il y a plusieurs informations qui passent dans le même moment. Elles sont pas toutes pour nous, faut savoir capter laquelle nous on attend.
Tiens-moi,
Arthur, en même temps, ça fait du bruit, en même temps, il faut rester très silencieux.
Le hauban, on fait le hauban au vent, les gars. On reprend le hauban au vent.
Oh, hisse.
Encore.
Oh, hisse.
Allez, encore.
Oh, hisse.
Bien, encore.
Oh, hisse.
Encore.
Oh, hisse.
Tiens bon.
Allez.
On va venir peser, c'est-à-dire qu'on envoie 2-3 gars sur le bout qui vient en vertical.
Qui s'accroche.
Voilà, peser tout leur poids pendant que les autres peuvent prendre un peu de mou et rapidement clac 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 tourner pour rien perdre. Ça vaut un jogging, hein.
On va reprendre la mûre là-bas s'il te plaît. Allez, on brasse.
C'est l'essentiel de l'objectif du voyage, c'est en fait à un moment donné de se faire lever et de faire des grosses manœuvres, quoi. Nous, notre grande fierté, ça va être de dire bah voilà, on aura fait tant de virements de bord. Bon, ça fait un peu gros bourrin, mais c'est notre truc. On a envie d'être là et de dire ouais, nous on fait des virements de bord et à l'ancienne, et voilà, on met 5 minutes et une demi-heure de prépa, mais on fait du virement de bord et on sait qu'on va en faire.
Bon, petit débrief. Bon, pas mal pour une première. Bon, après, là, c'est encore coincé au niveau du grand phare, notamment la base verte. Problème, ça a été brassé beaucoup trop tard.
Il
Yann Cariou, je suis le commandant de l'Hermione et nous sommes sur le gaillard d'avant de l'Hermione. Là, actuellement, on a 9 nœuds devant, on marche à 5 nœuds 5.
Ce qui est un rendement
très bon, meilleur, un peu plus de 50%. On découvre vraiment un navire très 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 performant, quoi, au-delà de ce qu'on pensait. Et en plus, la série de l'Hermione, c'était une série de 4 navires particuliers qui ont été construits par un ingénieur qui s'appelait Chevillard l'aîné et qui ont été réputés par les commissions à l'époque les meilleures marcheuses de toutes les frégates de France. Donc en dessous, ce qui se passe, la carène est particulièrement profilée, c'est une carène de clipper. Hein. D'ailleurs, les clippers se sont certainement inspirés des travaux qui avaient été faits de recherche sur ces navires au niveau hydrodynamisme. On a une coque parfaite. Et au-dessus, évidemment, on a cherché à optimiser le gréement avec une surface de voilure très très importante, très développée et des réglages et comme les boulines pour faire marcher au mieux cette voilure. Les boulines sont des cordages qui permettent d'ouvrir le bord d'attaque de la voile, bord d'attaque au vent, de manière à rentabiliser l'écoulement des filets d'air dans la voile. Là, on est en train d'amener la voile d'été de Grand Hunier, puisqu'elle perturbait un peu l'écoulement justement laminaire du vent dans le Grand Hunier. Donc, on l'amène, puisqu'elle nous fait perdre plus qu'elle nous fait gagner. Voilà, ici, c'est un équilibrage permanent. Ça, c'est très complexe, parce que vous avez à peu près une quinzaine de voiles qui travaillent, et il y a des interactions entre elles. Des turbulences, il faut vraiment essayer de comprendre tout ça, bien analyser pour faire marcher au mieux le navire. Et je me dis que c'était exactement comme ça il y a 230 ans, on avait la même vision puisqu'on a absolument le même gréement, les mêmes matériaux. Donc c'était comme ça. Donc, et tout ce qu'on a pu voir dans les films de vaisseaux comme ça, on le retrouve ici, mais en vrai, c'est encore plus vrai puisque ici on a vraiment. On s'est vraiment. Embêté à rechercher exactement l'authenticité de la frégate. On a reconstitué exactement le gréement, que ce soit dans les matériaux, que ce soit dans la disposition du plan de pont. Hein, les voiles, vous avez vu, elles sont en lin. On a utilisé pour faire ça les plans et les conseils de construction, de fabrication de l'époque, qui ont été faits, le traité de Rome notamment, hein, l'ingénieur, l'art de la mature, l'art de la voilure. On s'est inspiré de tous ces documents d'époque pour répliquer exactement. Donc on est vraiment ici dans le temps, c'est une machine à remonter le temps.
J'ai 22 ans et j'habite pas très loin de Rochefort à Champagne, un petit village. Et j'ai connu l'Hermione en fait depuis le début de sa création. J'avais déjà été la voir quand j'étais toute petite. Et après, j'ai entendu que l'Hermione recrutait son équipage. Du coup, je me suis dit pourquoi pas postuler. Et je l'ai aussi proposé à ma sœur qui tout de suite a dit bah oui, on se lance dans ce projet. Je connaissais rien. J'y connaissais vraiment rien. Et j'ai tout appris sur le chantier en y allant assez souvent. On apprend vraiment plein de choses. Et
on apprend quoi, justement? Qu'est-ce qu'on doit savoir absolument quand on arrive là? Il y a des cordages partout.
Alors, on doit savoir beaucoup de choses. Les points de tournage, il y en a 250. Donc, les points de tournage, c'est tous les bouts, les cordages qui sont reliés à chaque voile. Enfin, chaque cordage, en fait, a un rôle précis. De jour comme de nuit, il faut savoir où sont les bras de misaine, par exemple, les écoutes, les amures. Enfin, c'est vraiment tout un langage très spécifique. Mais après, il y a aussi toute une logique sur les points de tournage. Par exemple, tout ce qui concerne la misaine, les cargues de misaine sont quasiment côte à côte. C'est pas non plus impossible, hein, on y arrive tous. Donc.
Il est 2h de l'après-midi, on est dans le grand réfectoire où tout le monde se réunit pour manger.
Ah ben Pierre, le menu du jour.
Salade de betterave et de mâche.
Fléton sauce au blé.
Au bleu.
Iblis. Et mousse de pistache en dessert.
C'est pas mal.
Merci. on finit le quart et on mange directement.
Parce que, en fait, on fait nos manœuvres avec nos quarts, donc on voit toujours un peu les mêmes personnes. Et c'est vrai que les repas, c'est toujours l'occasion de croiser les autres quarts. Voilà. C'est un moment de convivialité importante de la journée.
Moi, je m'appelle Loïc, donc je suis le messman de l'Hermione.
C'est-à-dire
c'est un peu c'est le maître d'hôtel. Et je fais la liaison entre la cuisine et la batterie, l'endroit où on mange précisément.
Qu'on précise, tout est accroché.
Ah, tout est amarré, ouais. C'est obligatoire sur un bateau, sinon on retrouve tout par terre.
Et on arrive encore à manger même quand c'est gros temps.
Certaines personnes arrivent à manger, pas toutes.
T'as mal au ventre, t'as mal au crâne et puis tu rends ce que t'as mangé, c'est tout. Après ça finit par passer.
Avec le temps.
Ouais. Après ça prend plus ou moins de temps en fonction des personnes. Mais... bah, la première semaine c'était pas passé par exemple. On fait avec et puis, c'est tout.
Donc moi je suis Jean-Baptiste Vass, là je suis le médecin pour les deux, trois premières parties là, du périple.
Là on est à l'intérieur de l'infirmerie, on aperçoit une couchette, du matériel, des bouteilles d'oxygène aussi.
Ouais, alors là on est à l'intérieur de la Sainte-Barbe surtout.
C'est l'ancienne salle aux poudres historique.
J'étais en train de checker tous les nouveaux appareils. Ça c'est ce qu'on appelle un scope, hein. C'est un appareil qui surveille les différentes fonctions vitales, la saturation d'oxygène, les battements cardiaques. Tiens Pierre, on va tester ta tension artérielle.
T'as des électrodes ?
Non, on n'a pas encore reçu les électrodes.
On est très loin des conditions sanitaires, médicales qu'on avait sur ce bateau au 18e.
En fait je pense qu'on fait pas du tout la même chose au final. Tous les médicaments, ils les avaient pas. Tout ce qui est antibiotiques, morphiniques, etc., ben, ils avaient pas. Il y avait peut-être un peu d'opium, mais c'est tout. Un bon coup de rhum. Par contre, nous, ce qu'on n'a pas, et ce qu'ils avaient, eux, c'est tout le matériel de chirurgie. Ils pouvaient le faire dans des conditions précaires. Aujourd'hui, on peut plus, quoi. Tous les médecins sont pas formés à la chirurgie. Et puis, sur un bateau, on peut pas faire même de la petite chirurgie. C'est quand même assez difficile. Donc là, non, les gabiers... peuvent se rassurer, on va pas les amputer, on n'a pas ce qu'il faut à bord pour.
Pierre, moi, j'ai pas le statut de doc à bord, donc c'est Jean-Baptiste qui assure cette fonction, moi je suis le médecin de secours si on veut. Premier facteur qui change, c'est l'isolement. Parce que quand on a un problème à terre, globalement, on a assez vite une équipe de SMUR qui peut intervenir et acheminer la victime vers un centre de réanimation. La définition de la médecine isolée, c'est un délai d'une heure, un délai d'évacuation d'une heure vers un centre de réanimation. Et c'est une des spécificités du bateau, et notamment de l'Hermione, qui, au cours de sa transatlantique, se retrouve à peu près 15 jours en état d'isolement hors des litreuillages possibles de terre, quoi. Dans mon parcours de médecin, l'Hermione a une place particulière puisque c'est le sujet que j'ai choisi pour faire ma thèse de doctorat. Quand j'avais étudié un peu l'aspect historique des essais en mer, entre guillemets, de l'Hermione en 1780, ce qui m'avait frappé, c'était notamment la chute d'un gabier qui était tombé, je crois, de la Grand Vergue. Donc ça fait quoi ? Ça fait 15-20 mètres de haut. Et en fait, qui s'était fracturé les deux fémurs et qui était mort deux jours après dans un contexte de douleur. On imagine pas, je crois. Alors aujourd'hui, les gabiers ont des longes de sécurité, donc c'est un risque qui, a priori, est contrôlé. Néanmoins, bon, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une faute de sécu, d'un mousqueton qui est mal crocheté.
Même si aujourd'hui, tous les gabiers ont des harnais de sécurité, il continue de jouer les équilibristes, alors pour comprendre, je vous emmène tout en haut du grand mât avec Nicolas Massé. Et pendant l'ascension, on sera en liaison radio avec Anne Renaud, qui a fabriqué les voiles de l'Hermione et qui reste à côté du micro de Jean-Michel Coppi.
On y va ?
Allez, c'est parti. Bon, alors on n'oublie pas les règles de sécu sur la ligne de vie. On va passer par là.
Donc là, les deux gars, ils sont en train de monter dans les haubans de grand voile, en fait. Ils vont aller sur le grand mât.
Voilà, donc là, on est au pied du grand mât.
Ouais.
Côté bâbord.
Tribord. C'est presque ça, mais
côté tribord.
C'est l'autre bâbord. C'est le bâbord de l'autre côté, quoi. Donc là, les haubans, bien goudronnés, sont goudronnés au moins deux fois par an. C'est ce qui permet de maintenir les mâts sur les côtés. Et c'est ce qui nous permet de monter tout en haut avec les enfléchures, là, ce que les gens appellent vulgairement des échelles souvent. La fameuse image des pirates qui montent le long des haubans pour atteindre la plateforme de Hune où on va voir les Gaulois arriver. Quoi.
Là, on a combien de mètres à faire en hauteur?
Bah là, on va se faire un petit 30 mètres.
30 mètres d'eau?
Ouais.
J'ai pas du tout peur.
Bah non.
On entend les petits clics du harnais. Sécurité.
On est tout en haut des haubans.
On aperçoit le bateau en bas.
Ouais, et on est au pied des gambes de revers. C'est une espèce de dévers qui passe sous le plateau de Hune. Plateau de Hune qui fait 30 mètres carrés quand même. C'est un petit appart parisien, quoi.
Pour arriver là-dessus, il va falloir qu'on escalade en passant en dessous de la plateforme.
Voilà, donc on va être en dévers et on va avoir le dos...
dans le vide.
Voilà, et si on se retourne, là on voit l'immensité de l'océan. Il y a deux choses qui sont importantes sur le bateau pour laquelle on est ici, c'est les grosses manœuvres et puis ben, monter au mât. C'est un peu le plaisir du gabier, on se bat un peu pour c'est qui va aller là-haut pour serrer les voiles, quoi. Bon, allez, on se retrouve en haut de la plateforme.
Allez.
Et là, c'est la grimpette.
Donc là, il faut bien tenir sur ses bras et ses jambes parce qu'on se retrouve un petit peu suspendu jusqu'à atteindre le plateau de Hune et puis à prendre les haubans de Hunier. Psychologiquement, ça marche pas. On n'est pas des araignées. Mais après, on s'aperçoit qu'on arrive.
Là, je suis suspendu dans le vide, là.
Allez, un dernier coup. Clac, on appuie sur ses jambes, on vient chercher les haubans. On tire, on s'arrache les mains.
Et voilà. Les deux gars sont sur le plateau de Hune. Ils vont pouvoir faire une petite inspection et puis s'apercevoir que c'est pas non plus très pratique.
Alors là, Jean-Michel, si tu nous entends, c'est le moment que Anne nous explique la voile qu'on a juste... en face de nous, si c'est possible, est le principe des bandes de riz à l'ancienne avec les ficelles qui pendouillent.
Les ficelles qui pendouillent. Descends de là que je t'attrape. Alors ça, c'est un grand hunier, effectivement. Deuxième étage, à droite. Et c'est une voile qui va faire 250 mètres carrés, donc tout en lin. Des lèzes qui font 70 cm de large, assemblées à la machine. Et puis fini avec des finitions traditionnelles, donc des petits œillets cousus, des ralingues, donc c'est des cordages en goudron qui sont un peu le renfort du contour de la voile. Et puis ces petites garcettes de riz qui permettent de réduire la toile quand il y a du gros temps. Donc effectivement, contrairement aux voiles modernes, on a l'habitude de voir ces garcettes en bas de la voile. Là, on va prendre un riz par le haut de la voile. Ça veut dire qu'une équipe grimpe, se répartit sur les vergues. Donc en l'occurrence, pour la grand voile et pour le grand hunier, on va être obligé d'être entre 15 et 20, même, pour ces surfaces-là, de manière à pouvoir attraper des parties de toile et après les pouvoir les nouer en bandes de riz et réduire les surfaces de toile. Ça va là-haut?
Comment est-ce qu'on a construit ce gréement-là? Ça supporte combien un haubans comme ça?
Oh bah ça va dépendre, mais on est vite sur des trucs de 800, une tonne 2. Certains trucs vont. Certains étais, ça va être 2 tonnes.
Question courte en bas, si tu peux y répondre. Anne, combien de mètres carrés de voilure au total? Et là, sur un jour comme aujourd'hui, là l'Hermione navigue sous quelle surface de voile?
Alors là, au total, en fait, on a construit 2000 mètres carrés de toile, alors que c'est un bateau qui pouvait effectivement, à l'époque, porter jusqu'à 3200 mètres carrés de toile, parce qu'il y avait des bonnettes, ce qu'on n'a pas fabriqué. C'est une frégate, c'est un bateau qui doit aller très très rapide.
Toutes les voiles ont été faites en lin, c'est un tissu qui travaille normalement au départ. Comment on les entretient une fois qu'elles sont faites, ces voiles?
Alors en fait, oui, le lin, c'était un choix qui était assez important parce qu'en polyester, on aurait été effectivement plus solide. Et je pense pas que ça aurait été... Enfin, il y a eu des recherches hein, là-dessus, c'est pas juste mes pensées. C'est qu'on n'aurait pas été cohérent par rapport à toute la souplesse du gréement. Donc ces voiles, elles respirent en même temps que le bateau et en même temps que l'ensemble du gréement. Maintenant, c'est vrai que c'est un choix de tissu qui peut sembler assez délicat parce que ça demande beaucoup d'entretien. Et ça veut dire sécher les voiles en permanence, qu'il n'y ait pas du tout d'humidité qui se mette dedans et qui fasse des grosses plaques de moisie qui vont finir par déchirer. Les retouches éventuelles qu'il y aurait à faire, c'est surtout dans un premier temps l'entretien. Et à terme, ça serait voir si les ralingues ne travaillent pas trop, parce que les cordages vont s'allonger, et les voiles aussi, mais pas de la même manière. Donc là, on verra, je pense qu'on verra même au retour s'il y a des modifications à faire. Mais en général, il n'y a pas vraiment de modification une fois que la voile est faite, mais il y a surtout de l'entretien et de la réparation s'il y a usure ou déchirure.
Okay. On essaye de monter la dernière échelle.
Ouais, carrément.
Une petite accélération du rythme cardiaque.
Tu vas monter sur ta gauche. Tu vois, tu as les enfléchures là, voilà. Et là, juste au-dessus de ta tête à droite, là où tu as ta main, c'est la ligne de vie qui va te monter en haut.
Donc les voilà rendus au bar de perroquet.
Là, il faut pas regarder en bas.
Non, pour l'instant, c'est pas le moment. Tac, okay. Nickel. Ouh, là on y est.
Oh la vache.
On est là-haut.
Là on est à quelle hauteur?
Là on est à 40. C'est ça, 40.
40 mètres de haut.
Ouais, 40 mètres de haut. De la 40 mètres de haut du pont. Autant de tout. Je disais ce matin, on était au cœur de l'action et du collectif en ce qui concerne la manœuvre. Là on n'est plus du tout dans le collectif, tu vois. Il n'y a que nous deux là. Alors, je sais que souvent on vient faire des serrer les voiles ici, et souvent on a notre chef de tiers qui braille en bas et qui nous dit ok, c'est pour revenir, parce qu'on tarde un peu là, tu vois. Une fois qu'on a fait notre boulot, on est là et c'est vite fait, c'est assez hypnotique, moi je trouve, cette immensité de l'océan avec ce mouvement. Et puis quand tu regardes ce trois mâts là, tu sais que c'est des points de vue, c'est des images que tu garderas toute ta vie, quoi. Il y a des sensations. Hein.
La ligne d'horizon.
Ouais. L'Amérique.
Yeah, je suis américain, je suis Adam, je suis partie de l'équipage, je suis un des volontaires Gabier, je suis aussi un historien.
Alors, il faut décrire, sur la tête vous avez un bonnet rouge, lisière grise, foulard autour du cou, vareuse.
C'est-à-dire, j'ai commencé de rechercher les sujets des vêtements des marins, de la marine sous Louis XVI ce hiver. C'est seulement le début, mais je suis confiant que j'ai fait des choix qui sont représentatifs de cette époque. Mes chaussures sont faites à l'identique d'un trou et dans une épave de lac Champlain, coulé en 1776, pendant une bataille avec l'armée britannique. Les bas sont tricotés à la main, les culottes sont faites à la main aussi en peau de cerf, qui est presque le blue jean de l'époque. J'ai une chemise reproduite après les échantillons dans un lycée américain de l'époque. Et un bonnet parce que j'ai un chapeau, mais je la garde pour sortir parce qu'il a trop de vent dans l'agrément.
C'est une sorte d'uniforme type, quoi, finalement.
Oui, l'uniforme n'était pas réglé dans la marine jusqu'au 19e siècle, mais j'ai voulu me faire un peu d'un cobaye pour expliquer l'histoire sociale du bateau aux autres marins. Pour moi, c'est une façon de vraiment pousser mes limites personnelles.
Qu'est-ce que ça dit, justement, aux Américains? Qu'est-ce que ça représente? Lafayette, l'Hermione, c'est une partie de l'histoire des États-Unis qui est crucial.
Oui, certainement. Dans la culture populaire, il y a encore une connaissance de Lafayette, de sa service, qu'il était un homme très riche et très élevé en société, mais il a quitté tout ça pour servir pour nous, pour essayer de trouver quelque gloire chez nous, et qu'il était blessé. Il a fait deux campagnes, et il était proche ami à Washington. Il est devenu un rockstar à l'époque, et quand il est venu encore en 1824, il est devenu un héros, complètement.
C'est un des seuls personnages étrangers dont on trouve le portrait aujourd'hui à Washington, au Congrès.
Oui, certainement. Et grâce à son connexion avec ce bateau, j'espère que nous aurons l'arrivée chez moi et avoir un gros succès de publicité, de vraiment créer quelque amitié franco-américaine encore.
Cinq nœuds, c'est ce qu'indique l'anémomètre pour le vent qui est en train de tomber. Et l'équipage en profite pour continuer une partie des travaux, et notamment dans la cale.
Olivier Fernande, charpentier sur l'Hermione, et gabier aussi depuis peu. Alors là, on est dans la voilerie à l'avant du bateau. Et là, on voit le bas du mât de misaine. Et encore devant, vous avez la contre-étrave avec la guirlande, la grosse pièce qui est juste ici et qui revient de l'autre côté. Là. Ça fait à peu près de bout à bout, je pense qu'il y en a pour 4,50 m. 4,50 m, ça fait comme un gros boomerang énorme.
On donne le chiffre de 400 000 pièces différentes, de bois, de métal. Comment est-ce qu'on fait ce Lego géant?
On le fait au fur et à mesure. Moi, je me suis pas rendu compte qu'on assemblait 400 000 pièces. C'était des petits bouts par petits bouts et on s'en rend pas compte, en fait. C'est très progressif. La grosse structure est toute en chêne. C'est du bois qui vient à peu près de toute l'Europe.
Est-ce qu'on peut se rapprocher de la paroi de la coque?
On peut aller là, ouais.
On peut aller ici.
Qu'est-ce qui bouge quand on est en mer? Qu'est-ce qui va bouger? Qu'est-ce qui a déjà bougé d'ailleurs?
Tout. Tout bouge. Tout bouge. Il n'y a pas un truc qui reste vraiment en place. C'est, tout est en train de bouger. Que ce soit de la porte jusqu'à ce qu'on appelle le beau, c'est le barreau de pont. Ou une solive dans une maison. Tout fléchit, tout est compressé. Il y a des forces dans tous les sens. Le bateau, quand il est dans l'eau, en fait, la coque se rétrécit un petit peu en largeur. Et on le voit au niveau des épontilles, les pièces de bois qui supportent les ponts, ça les soulève, et du coup il y a des jours en haut des épontilles. Sur certains trucs, on n'avait pas suffisamment anticipé, ce qui fait qu'on a dû reprendre certaines choses. Par exemple, les boulons, il ne faut pas que ça soit trop serré, parce que si c'est trop serré, il suffit qu'il y ait une torsion ou une traction, le boulon peut péter.
Qu'est-ce que vous surveillez dans la traversée? Qu'est-ce qui va bouger? Où est-ce qu'il va falloir aller regarder?
Eh ben, faut regarder les fonds déjà si le niveau de l'eau monte. Et si ça bouge pas, c'est que c'est plutôt bon signe. Et si ça bouge, après, faut chercher, faut fouiner, faut. C'est surtout au niveau de la structure de la coque, oui.
Là, on voit le fond. Là.
On aperçoit de l'eau.
Il y a toujours un petit peu d'eau au fond. Il y a une petite entaille dans la quille qui s'appelle la rablure. Et en fait, cet endroit-là, c'est l'endroit le plus délicat. Donc, que ça soit une partie qui soit toujours en eau, intérieure, extérieure, pour que ça permette au bois de gonfler et de garder sa pression.
Bruno Gravelier, je suis le superintendant du bateau.
Alors, dans des périodes un peu de calme, là, on contraste totalement avec le vacarme de l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites, et puis pourquoi cette petite atmosphère, cette petite bulle?
Parce que j'ai du travail administratif à faire, donc c'est plus sympa, je dirais, de le faire dans cette ambiance. Voilà, Glenn Gould, ça calme. Et donc je fais de la préparation des escales futures. Nos amis américains organisent, mais nous, du côté de notre côté, côté bateau, il faut qu'on soit aussi prêt pour pouvoir faire face, parce que l'équipage n'est pas non plus monstrueux, et il faut, avec une escale presque tous les deux jours, au moins dans les premiers jours, ça va être des fois un petit peu compliqué.
C'est vraiment un aboutissement dans l'histoire du bateau ?
Sans doute une étape, parce qu'il est construit pour longtemps, hein. Mais c'est quand même surtout un aboutissement, parce que cette aventure, ça fait 22 ans, 22 ans pour la construction, 3 ans pour la constitution de l'équipage. C'est une aventure de technique et associative et humaine qui est formidable.
L'engouement, on a parlé de la partie américaine, on voit bien que cette fois-ci on est en train de basculer dans un éclairage médiatique un peu différent, même en France, même au niveau des politiques, y compris au niveau des entreprises qui rejoignent l'aventure en ce moment.
Oui, ça paraît assez clair. C'est-à-dire qu'il y a eu un engouement d'abord à Rochefort, ensuite à Bordeaux, à Rochelle. Aux États-Unis, ça semble se dessiner aussi. Alors, j'espère que les entreprises vont suivre le mouvement, parce que c'est vrai qu'elles ne se sont pas précipitées jusqu'ici, mais là, comme vous le dites, le mouvement semble s'enclencher un petit peu. Oui. Il faut que ce projet soit partagé, il faut qu'il fasse tache d'huile. Ça se produit déjà avec l'équipage. Vous pourrez constater qu'il y a ce mélange d'âge, de provenance, c'est une mayonnaise qui prend. Il y a un enthousiasme qui se partage et qui est fabuleux. Et donc il faut que tout ça éclate ailleurs. Il faut que ça se projette.
Je m'appelle Manon, j'ai 26 ans et je suis née à La Rochelle.
Et
je suis volontaire, gavière sur l'Hermione.
Depuis ?
Depuis un an.
Il est quelle heure ? Où est-ce qu'on est exactement ? Et qu'est-ce qu'on s'apprête à faire ?
Alors on est dans le Faupont, là où il y a les postes d'équipage, c'est les dortoirs. En gros, c'est les dortoirs. Il est 23h30 et on va réveiller l'équipe tribord qui fait ce qu'on appelle le Zérac, c'est-à-dire qui travaille de minuit à 4h du matin.
Zérac, 0,
4 heures, ouais.
Allez, parti.
Bonsoir, Tibord. À 3, 1, 2, 3,
l'idée, c'est d'essayer de ne pas brusquer tout le monde.
Ouais, un réveil à 23h30, c'est jamais agréable, mais c'est jamais agréable en général. Et du coup, voilà, faut essayer d'être sympa. J'ai pas de compétences musicales ou quoi que ce soit particulière. Du coup, on donne toujours la température là-haut pour savoir comment s'habiller, parce qu'une fois qu'on est sur le pont, on redescend pas. Et après, ça va être ce qu'on a fait, ce qu'il y a à faire quand on est au courant. Mais voilà, c'est juste un petit briefing et essayer d'être gentil, de pas envoyer la lumière dans la tête, ouais, tout de suite, quoi.
C'est quoi une ambiance de nuit sur l'Hermione ?
Ça dépend des conditions météo, ça peut être très cool, ça peut être plus sportif, assez concentré. Et voilà, on peut, ça va de jouer de la musique et à tirer sur des bouts comme ils ont fait là tout à l'heure. Il n'y avait pas des grosses conditions, mais il fallait hisser deux vergues avec des voiles assez lourdes. Et du coup, quand il faut faire les deux d'affilée et monter quatre fois au banc, ça tire un peu, quoi. Donc la pause est la bienvenue, quoi, en général.
En ce qui vous concerne, donc le quart
bâbord,
comment ça se passe maintenant ?
Nous, on est un peu privilégiés, on fait les horaires cool. 8h midi, 20h minuit, et du coup, on va débaucher d'ici une demi-heure. Donc on passe la main au quart que je viens de réveiller. Et voilà, il y a une espèce de... un petit rituel un peu où on souhaite bon quart à l'équipe qui monte à bord. Et puis bah, nous, on va aller se coucher puisqu'on reprend demain à 8h. Donc voilà, on fait notre nuit et ça recommence, quoi.
On sent qu'on est parti, là.
Nous, on a vraiment envie de partir, du coup, et d'attaquer la haute mer, quoi. Et on attendait ça depuis tellement longtemps que, voilà, La Rochelle, c'était sympa, mais un mois à quai, enfin, là, les un mois ouais, à quai, c'était très long, quand même.
Ce voyage-là, pour vous, personnellement, c'est quoi ?
C'est tout et rien, puisque j'ai jamais fait de navigation avant de monter sur ce bateau, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Après, c'est surtout... si, c'est un peu un challenge contre moi-même, quoi. Je suis plutôt du genre sport en canapé avec ordinateur, donc du coup, là, ça va être... c'est me dépasser, j'ai envie de me dépasser, de me prouver que je suis capable de faire ça. Et après, rencontrer tous ces gens que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer dans ma vie normale.
Ben, là pour le premier jour en fait moi j'ai pas dormi. J'ai pas réussi à dormir. Parce que j'ai fait l'erreur de dormir cet après-midi. J'aurais pas dû. Bon, normalement, là on devrait dormir 2 heures. Entre 9h et 11h. Pour après redormir de 4h30 à 10h, 10h30. Au mieux 11h.
Ce quart, il va ressembler à quoi ?
Ben ça, c'est... Alors, le premier quart, comme ça, le premier quart de nuit, on ne sait pas, on va voir comment vient le vent. On arrive en pleine nuit, nous. Il ne faut pas qu'on fasse de bruit, parce que là, tout le monde dort, du coup. Même le commandant. Donc, à l'arrière, il ne faut pas faire de bruit. Donc là, il y a quelqu'un qui vient me taper dans la cheville à boucle. Ça fait un bruit infernal en bas. Donc, il faut faire doucement. Voilà, Zerak, ça apprend à faire des manœuvres en silence. Quand même parler parce qu'on se voit pas du tout, alors c'est le seul moyen de communication, c'est la voix. Voilà, voilà, Zerak 04h, c'est le nom du tir. Voilà, c'est un diminutif qui existe depuis longtemps dans la marine, Zerak. Et nous on dit Zerak attaque. Voilà.
Et là vous allez manger là ?
Non, là on va travailler jusqu'à 4h. On mangera demain à midi. On se lèvera pour manger à midi. Pas de petit déj pour nous. Mais peut-être que Loïc nous a préparé une petite collation, c'est possible. C'est pas...
Le réveil, il est toujours aussi difficile. On s'habitue.
Apparemment, on s'habitue, mais c'est quand même le quart le plus difficile. Moi, c'est la première fois que je fais Zerak. Mais voilà, nous, on le voyait en. À l'époque, quand on voyait Zerak se réveiller, ils ont tous des sales gueules. Quoi. On arrive à repérer dans un bateau ceux qui font 04 heures parce qu'ils ont des sales gueules. Voilà. Donc, nous, on est encore trop frais, ça se voit pas. Mais... Au bout de 2 mois, ça se verra.
On ramène. Là, c'est tout.
Ok, tourne.
L'effort. Bon, c'est justement comme ça. C'est de l'effort relativement court, mais intense. Quoi.
Qu'on décrive, il y a combien de personnes là qui travaillent sur le pont? Pour quelle masse déplacée?
Bon, alors là, les masses, j'en sais rien, mais ça commence à compter en tonnes. Et ben là, sur le pont, il y a un tiers, donc c'est 18 personnes. 18 heures de bras qui manipulent et tout ça.
Il y a
quelques
plus. Je dirais que c'est bon. On est en place sur les écoutes maintenant, c'est bon?
Eh ben, moi, je m'appelle Léo. J'ai 21 ans. Je suis dans la Marine nationale à la base et je suis détaché de la Marine pour participer à l'aventure Hermione.
Les manœuvres se compliquent dans l'obscurité. Comment est-ce qu'on s'entraîne finalement face à cette situation-là?
Bah, la manœuvre en elle-même, elle n'est pas plus compliquée de nuit. Ce qui est plus compliqué, c'est de se repérer, de trouver le bon bout, de pas se tromper.
Par exemple, devant nous, on a quoi là?
On a un paquet, on a tous les bouts du Beaupré.
Un gigantesque râtelier?
Ouais, ça commence à faire pas mal. C'est symétrique, donc on repère relativement facilement.
Je m'appelle Dylan Berthaud, j'ai 20 ans. Je suis arrivé sur ce bateau, j'avais vu un article dans le journal Sud-Ouest en 2013 qui demandait des volontaires, je me suis inscrit. Ils m'ont rappelé un petit peu moins d'un an plus tard, en mars 2014, faire un stage. Et ainsi de suite, je suis venu au chantier de l'Hermione, j'ai participé aux finitions, aux essais en mer. Et puis voilà, on est aujourd'hui le jour du départ et l'aventure nous attend quoi. Hors du bateau, j'étais à la fac de sport là, pendant 2 ans. Cette année, j'ai pris une année sabbatique pour le projet. Et l'an prochain, je reprendrai ma L3. Enfin, je finirai donc ma licence. Puis voilà, quoi.
La nuit tombe? Elle est tombée?
La nuit est en train de tomber, ouais. Les étoiles apparaissent. Orion qui apparaît avec les 3 étoiles. Il forme une espèce de sablier. Et on est tout seul, perdu au milieu de l'océan. Il n'y a personne autour de nous. Le petit bruit des vagues, et il manque plus qu'un peu de brouillard. Je dirais un petit navire fantôme, ouais, pour appeler ça comme ça. On regarde l'océan, on regarde l'horizon à intervalles réguliers, on prend les jumelles, on regarde au loin si un bateau arrive. Faut faire bien gaffe, quoi. Faut bien s'écouter, on sait qu'il y a les autres qui dorment en dessous. Et en même temps, les manœuvres qui continuent, donc là, il y a le groupe Babor qui est au Cabestan. Ils ont la drisse qui est autour du cabestan et cette drisse permet de monter là le petit hunier. C'est bien calme donc on n'a pas envie d'hausser la voix, on s'écoute tout simplement. Chaque ordre est dit à la suite les uns des autres, mais ouais, il n'y en a pas un qui va crier plus fort que l'autre. Un groupe soudé comme ça, on le retrouve rarement ailleurs aussi. Parce que sur ce bateau déjà on peut pas être tout seul. Si t'as une action à faire, va falloir être tous ensemble sur le même bout. Si tu t'écoutes pas, s'il y en a un qui y va tout seul, il va jamais être capable de prendre la charge. C'est tout ça le groupe, c'est absolument s'écouter chacun et chacune, avec le respect de chacun et chacune, les filles, les gars. Et c'est comme ça que ça fait, ouais, une super team.
Du monde là-haut ?
Pourquoi on ne fait pas dans le bras, on ne fait pas dans l'autre sens aussi?
Comment ça, on ne fait pas dans l'autre sens? Ah ouais, peut-être parce que c'est trop près du mât.
Alizée! Allô?
Tom, tu m'appelles?
Ouais!
Ouais!
T'es là, Vicky?
Ouais!
T'envoies quelqu'un pour t'aider à pousser la voile?
Thank you.
L'Hermione, un fameux trois-mâts part pour les Amériques. C'était un reportage d'Antoine Gignot, prise de son à bord et mixage à terre, signé Jean-Michel Coqui. Réalisation Anne Lureau, assistée de Stéphane Combe. Nous ne pouvons que vous conseiller d'aller visiter le blog de l'Hermione sur Internet avec de superbes images qui retracent toutes les étapes de cette tournée américaine. Je vous souhaite un très bon dimanche.